vous encourager avec les quelques paroles qui vont suivre ici. 1 Corinthiens, chapitre 16, et on va faire une lecture dans ce chapitre, lire plusieurs versets qui sont ici, pour notre exhortation ce matin. 1 Corinthiens, chapitre 16, premier verset, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur, que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et de Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas, Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il est étonnant quand on lit une partie de cette lettre, combien elle est humaine. Elle aurait pu être écrite par l'un d'entre nous. On lit ça comme si c'était quelqu'un de la famille qui a écrit. Il n'y a rien de très céleste dans ce qui est écrit ici, sauf le contenu qui a affaire à des choses célestes. En disant ce que j'ai dit, je voulais dire par là qu'il n'y a pas de l'éloquence dans la lettre. C'est une écriture qui est très simple, terre à terre, qui s'adresse aux hommes, qui vivent au quotidien et qui ont des difficultés au quotidien. L'exhortation de l'apôtre Paul est que dans l'Église, il y ait du respect. Il y a du respect pour les dirigeants, pour ceux qui œuvrent dans l'Église. Et je crois que ça, c'est fort important que nous ayons du respect pour ceux qui œuvrent dans l'Église. Il semblerait que même à l'époque de l'apôtre Paul, s'il doit faire l'exhortation à l'église de Corinthe concernant ces choses, c'est que l'humanité est toujours une chose avec laquelle vous et moi, nous avons à lutter. Et nos pensées sont là, nos différents points de vue sont là. Chacun d'entre nous, on a certainement une vue sur certaines situations qui sont différentes. Et quand ces choses viennent dans l'Église, on doit regarder les choses selon la parole de Dieu, avec douceur et avec amour, et avec respect les uns des autres. C'est fort important. Alors l'apôtre Paul ici énumère certaines choses qu'il voudrait faire, il énumère certaines choses que certaines personnes devraient faire qu'ils ne font pas, pour le moment, et les choses qui sont dites ici sont très très palpables pour vous et moi, c'est quelque chose que l'on vit au quotidien. L'une des choses qui a attiré mon regard pour nous ce matin, c'est qu'il mentionne dans le verset 8, il dit qu'il restera à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, et il déclare dans le verset 9, car une porte grande d'un accès efficace m'est ouverte, et des adversaires sont nombreux. Alors que nous sommes, nous, ici, dans le début d'une nouvelle année, qui aurait songé que l'on serait déjà en 2012. Qui aurait pensé qu'on arriverait à une telle date sur le calendrier, surtout parmi ceux qui sont un petit peu plus âgés, ceux qui ont une cinquantaine d'années. On n'aurait jamais pensé qu'on serait arrivé en 2012, mais on est déjà là. Alors pour les jeunes, bien sûr, ça fait partie du quotidien. Ceux qui sont nés à partir de l'an 2000 et qui ont 12 ans aujourd'hui, ils se demandent de quoi on parle. Mais sachez une chose, simplement pour votre savoir, c'est que dans les années 50, 60, 70, les anciens de l'Église pensaient que Jésus reviendrait avant l'an 2000. On pensait que le retour du Seigneur serait autour de ce moment-là. On est déjà 12 années passé l'an 2000. Et jusqu'à maintenant, il n'est pas revenu, mais il revient. Le fait qu'il ne soit pas revenu à l'an 2000 alors que les anciens s'attendaient à ce qu'il revienne à la fin de ce millénaire, mais on n'a pas les dates, personne ne connaît la date. Et pour nous, il serait absolument insensé de vous dire que Jésus revient à la fin 2012, selon les calendriers des Mayas. Les chrétiens ne marchent pas avec le calendrier des Mayas. Les chrétiens marchent avec le calendrier de Dieu, du seul et unique Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas ni superstitieux, mais nous avons confiance en un Dieu qui peut toutes choses, qui sait toutes choses, et les Mayas ne savent rien. Satan ne sait rien. Il suppose simplement, il présuppose d'après les choses qui se passent, mais il n'est absolument pas au courant quand est-ce que Jésus reviendra. Et voilà quelqu'un qui est très intelligent, qui écrit un livre, qui écrit quelque chose et qui devient millionnaire, parce que, soi-disant, la fin du monde va arriver à la fin 2012. Vous savez quoi ? La fin du monde va arriver. Le Seigneur Jésus revient. La Bible nous dit qu'il revient avec des myriades de myriades. Il revient avec l'Église. Il revient pour juger l'Antichrist, pour juger le faux prophète, pour juger le péché. Il revient pour ça. Et quand il reviendra, nous serons avec lui. Parce qu'avant son retour, il prendra son Église et il reviendra pour juger le monde avec l'Église. Amen. C'est-à-dire les chrétiens, nous nous attendons à ça. Nous nous préparons pour ça. Voilà pourquoi nous voulons nous sanctifier davantage et réaliser que 2012 doit être pour nous quelque chose que l'on regarde non pas avec une fatalité, mais qu'on regarde sur 2012 avec une opportunité. Qu'est-ce que je peux faire pour Jésus en 2012 ? Amen. J'ai écrit au frère Toki à Toulouse, pour Jésus en 2012. Ça sonnait bien pour lui. Pour nous, à Melun, ça ne sonne pas comme ça. Mais enfin, on veut nous marquer notre temps en 2012. Amen. On ne sait pas quand est-ce que Jésus reviendra. Peut-être qu'il reviendra bien avant la fin de l'année. Qui sait ? Ni vous, ni moi. Mais alors que nous sommes en début d'année, j'aurais voulu vous lire ce poème qui est ici. Et le titre de ce poème est « Le pays du recommencement ». La personne qui l'écrit est une femme qui s'appelle Tarkington, Louisa, et elle dit ceci: « Je voudrais qu'il soit un pays merveilleux qui s'appelle le pays du recommencement, où toutes nos erreurs d'antan, toutes nos blessures de cœur, toute misérable et égoïste cupidité pourrait être jeté en entrant, heureux, comme un vieux manteau de malheur qu'on n'aura plus besoin d'endosser. On y trouverait tous les petits vouloirs qu'on a oubliés, puis trop tard repensés, les petites promesses oubliées et les 1001 petits devoirs qui auraient rendu meilleure la journée d'un frère ou d'une sœur moins fortunée. J'aimerais qu'il existe cet emplacement appelé le pays du recommencement, où nos erreurs qui nous attristent et toutes nos peines égoïstes seraient laissées à la porte comme un manteau usé pour ne plus jamais être endossé. Je crois que dans la vie de tous les hommes et les femmes, et de vous qui êtes ici en train de m'écouter, il y a certainement quelque part dans notre vie, dans notre cœur, un désir de trouver ce pays du recommencement. Et c'est le thème de mon message aujourd'hui, le pays du recommencement. Notre désir en tant qu'enfant de Dieu est de faire mieux à l'avenir que nous l'ayons fait dans le passé. Il n'y a aucune personne ici qui voudrait renouveler les erreurs d'hier. Il n'y a personne qui se voudrait se retrouver dans la difficulté d'avant-hier. Il n'y a personne qui voudrait avoir la même expérience de maladie qu'il a eue il y a 2 ou 3 mois. Il y a des choses négatives dans chacune de nos vies que nous ne voudrions pas regarder à nouveau. Et on voudrait les oublier le plus loin. La nouvelle année nous offre à vous et à moi, frères et sœurs, l'opportunité de trouver ce pays du recommencement, ou si vous préférez, l'année du recommencement. Nous allons utiliser un nouveau calendrier à partir de maintenant. 2011 est à tout jamais banni. Nous avons rajouté un 2, c'est-à-dire que nous sommes arrivés en 2012. Nous serons confrontés, vous et moi, à de nouveaux défis, à de nouvelles responsabilités. Mais une des choses que nous voulons savoir, c'est que nous ne voulons pas nous tromper. Si nous pensons que la nouvelle année sera complètement différente de celle qui s'est passée. Parce que nous serons toujours et encore confrontés à de nouveaux combats, à de nouveaux problèmes, certainement à des nouveaux chagrins que nous avons eus au cours de l'année écoulée. Il est fort possible que les choses soient encore beaucoup plus difficiles en 2012, parce que nous sommes arrivés à la fin des temps. 1 Corinthiens 7, 26, « À cause des temps difficiles qui s'approchent », nous avertissait déjà l'apôtre Paul. Dans 2 Timothée 3, 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il serait un leurre pour moi de vous dire que 2012 sera une année où est-ce que tout sera facile et il n'y aura aucun problème et que l'euro sera le maître en Europe et dans le monde et que tous les problèmes financiers seront égarés. C'est fini tout ça. Maintenant, on a recommencé sur de bons pieds. Vous savez quoi? Toutes ces choses-là sont possibles si Jésus est inclus dans leur programme. Mais ils ont décidé de mettre Jésus de côté. Ils ont décidé de mettre la foi de côté. Ils ont décidé que l'humanisme les conduirait. C'est-à-dire qu'on va se conduire nous-mêmes. Voilà où est-ce qu'ils sont arrivés. Et sachez une chose que je vous ai dit il y a quelque temps en arrière, l'argile et la fonte, ça ne se mélange pas. Ils ne seront jamais d'accord. La preuve, encore cette semaine, notre président veut faire quelque chose que les autres ne veulent pas faire. Ils ne seront jamais d'accord. La Bible nous dit cela. Donc ce n'est pas quelque chose que nous avons reçu, une révélation quelque part. Nous avons simplement lu la parole de Dieu que l'argile et la fonte, ça ne se mélange pas. Et en Europe, ben, ça ne marchera jamais. Alors ça veut dire, oh, vous êtes négatif. Non, je ne suis pas négatif. C'est ce que la Bible dit. Je suis ce que la parole de Dieu me dit. On est arrivé dans un temps de moments difficiles. Matthieu 24, 6, c'est Jésus qui parle ici. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Donc, vous et moi, nous sommes avertis que dans cette année qui vient, dans les années qui viennent d'ailleurs, nous devons nous garder d'être troublés, nous devons garder vers Jésus-Christ plus que jamais. Car Jésus nous dit, il faut que ces choses arrivent, mais ça n'est pas encore la fin. Donc, nous sommes arrivés à la fin quelque part. Quand Jésus a dit ça, Matthieu a reporté ça 80 ans après l'ascension de Jésus-Christ. Et nous, il faut réaliser que presque 2000 années se sont écoulées depuis ce moment-là. Nous sommes arrivés très, très près du retour de Christ. Quand est-ce qu'il sera? Je ne sais pas, mais on est tout près. Bien que nous puissions avoir un profond désir intérieur de nous retrouver dans un certain pays imaginaire, dans une terre ou un pays de recommencement, nous devons être très réalistes, frères et sœurs, pour reconnaître que notre position actuelle, l'Église d'aujourd'hui, la position que vous et moi, nous avons, est vraiment une position où est-ce que nous devons regarder comme l'apôtre Paul a regardé. Une porte d'opportunité nous est ouverte. Pour l'Église, alors que je vous ai donné et dépeint brièvement une image un peu négative de la situation du monde, sachez que pour l'Église, il n'y a rien de négatif. Pour l'Église, il n'y a que du positif. Pour l'Église, il n'y a que la possibilité de voir des grandes choses, des belles choses et des choses qui sont puissantes, parce qu'elles sont divines, parce qu'elles viennent de Dieu. Amen. Donc aide-nous, Seigneur, aujourd'hui. Donc beaucoup de choses sont là parce que nous sommes dans une position, comme je vous ai dit, qui est vraiment cette porte d'occasion pour que nous puissions réaliser les plus profonds des souhaits que chacun d'entre nous, nous avons, c'est-à-dire que nous rendions notre vie au service du Seigneur, que quelque part nous fassions des choses qui valent la peine d'être faites, que quand on se retourne en arrière, on dit « Merci Seigneur que j'ai choisi de faire ce que j'ai fait ». Parce que quand je regarde en arrière, je vois du fruit, je vois du résultat et je vois la bénédiction de Dieu. Et sachez que quand vous allez inclure Jésus dans votre vie, c'est ce que vous allez voir quand vous allez regarder en arrière. En regardant en avant, vous et moi, on regarde dans le brouillard. On ne sait pas exactement où on va. D'ailleurs, les prophéties bibliques pour nous sont un petit peu dans le brouillard. On peut toujours les interpréter en regardant en arrière. Quand on dit, bah oui, ça s'est accompli, ça s'est accompli, ça s'est accompli. J'ai vu ça dans la parole de manière, ça s'est fait. Mais dire quand est-ce que ça va se faire exactement, on ne sait pas. On n'est pas sûr. On sait que ça va se faire, mais quand exactement, on ne sait pas. Mais en regardant en arrière, on voit que ça s'est fait. Et en regardant en arrière, on voit qu'un sauveur nous a été donné. Il est venu dans une crèche. Il est né plutôt dans une crèche. Il est venu sur la terre. Il est né pour nous sauver. Et en regardant en arrière, on voit que cela est réel. Il est au milieu de nous. Il nous a sauvés. Tout à l'heure, notre jeune sœur Jennifer a été baptisée au nom du Seigneur Jésus. Dieu a accompli sa promesse. Il l'a remplie du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Ça, ce sont des choses que nous regardons parce qu'elles ont été des promesses de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Paul aurait probablement aimé avoir trouvé ce pays du recommencement pendant tous ces jours où il travaillait pour le Seigneur et pour un peuple nécessiteux comme ceux qui étaient dans la ville d'Éphèse. Mais au lieu de fuir ou de se lamenter en raison de la difficulté de la tâche, il nous dit dans le verset 8 et 9, « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande, d'un accès efficace, m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui que dans le temps où nous vivons, l'époque où nous vivons, l'Église n'a pas d'adversaire ? L'Église est entourée d'adversaires. On veut tout faire pour éliminer Jésus. Si l'on pouvait simplement éradiquer le nom de Jésus. Dans le magazine que Sœur Novaki me lisait alors que nous étions en route, il nous est dit ceci, que bientôt dire que Jésus-Christ est le seul sauveur sera peut-être un crime. Déclarer que Jésus est le seul et l'unique sauveur sera peut-être un crime un jour. Pour certains pays en Europe, c'est déjà quelque chose qu'il faut faire attention de dire. Pourquoi ? Parce que d'autres religions disent qu'ils ont aussi un sauveur. Je voudrais savoir lequel. Tous ceux que ces gens servent sont morts, pas ressuscités. Jésus est ressuscité. Jésus est présent. Jésus est le Dieu et le seul unique Seigneur. Il est le seul sauveur. Amen. Car dans la ville de David, il vous est né un sauveur, amen, qui est le Christ, le Seigneur. Donc il y a un seul Seigneur, un seul sauveur. Mais l'opposition aujourd'hui est faite contre le nom de Jésus. Amen. On veut éliminer ce nom. On ne veut pas parler de lui. On veut parler de Dieu, mais pas de dire de quel Dieu. Notre Dieu a un nom. Son nom n'est pas Dieu. Son nom est Yeshua, Jésus. Yahvé s'est fait sauveur. Ça, c'est le nom de Dieu. Quand on parle du Dieu d'Israël, on parle de Yahvé. Et quand on parle de Jésus, on parle de Yahvé qui s'est fait sauveur. Amen. Voilà pourquoi nous déclarons dans cette église que Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas... Amen. Il n'est pas la deuxième personne de la Trinité, il est la première. Et il est la dernière. Et il n'y a pas de Trinité dans la Bible. Il y a un seul Dieu. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul éternel. Mais nulle part dans la Bible, et aucun disciple n'a jamais cru en trois dieux. Ils ont cru en un seul Dieu. Voilà pourquoi les musulmans se moquent des chrétiens, parce qu'ils prêchent trois dieux. Alors que j'étais dans la rue de Londres cet été, je vous ai dit, quand j'ai vu ce jeune prédicateur, fougueux, prêchant Jésus-Christ de tout son cœur, et ces femmes musulmanes qui étaient en train de se moquer de lui parce qu'il prêchait trois dieux. Donc j'ai dit, Sœur Novaki, je ne peux pas le laisser prêcher comme ça. Je vais aller le voir, je vais lui parler. Parle d'un seul Dieu, pas de trois dieux. La Bible n'a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Son nom, c'est Jésus. Donc j'ai rebroussé chemin pour aller voir ce jeune homme pour lui parler, et il n'était plus là, il a disparu. Mais savez quoi? Quand quelqu'un va prêcher un seul Dieu, on ne peut pas se moquer de lui. Mais il n'y a pas un musulman qui peut se moquer d'un chrétien qui prêche un seul Dieu. Amen. Si vous prêchez trois dieux, vous êtes mal parti. Voilà pourquoi Mohamed est parti contre l'idolâtrie. Il est parti se bagarrer contre tous ceux qui croyaient en plusieurs dieux. Il croyait en un seul Dieu. Et vous et moi, nous croyons en un seul Dieu. Son nom, c'est Jésus. Amen. Nous avons un nom sur ce Dieu-là. Son nom, c'est Jésus. Yahvé, Sauveur. Yeshua. Merci, Seigneur. Il dit qu'une porte m'est ouverte, mais il y a des adversaires. Une porte nous est ouverte, mais il y a des adversaires. Qu'est-ce qu'on fait? On se sauve ou on continue? Est-ce qu'on va prendre l'opportunité de dire, Seigneur, c'est un pays pour nous aujourd'hui de recommencement. Pour l'Église de Jésus-Christ, nous voulons aller de l'avant. Vous et moi, frères et sœurs, nous pouvons faire de l'année à venir une année sans précédent. Une année importante si nous prenons une décision similaire comme l'apôtre Paul, en disant « une porte nous est ouverte », plutôt que de nous réfugier sur nous-mêmes, nous cacher en disant « tu sais quoi, je ne vais pas faire trop de bruit, je ne vais pas parler trop, je vais rester dans mon petit coin, personne ne va m'embêter ». Vous savez quoi, ils vont vous trouver dans le petit coin. Amen. Donc il n'y a pas de raison de ne pas être audible. Parlez de Jésus là où vous êtes. Glorifiez son nom là où vous pouvez. Amen. Soyez un vrai témoin de Christ. Amen. Habillez-vous comme lui, ne vous habillez pas comme eux. Amen. Plaisez à Christ. N'essayez pas d'imiter le monde. Amen. Imitez le Seigneur Jésus dans tout ce que vous faites. Amen. À l'heure où nous vivons. Alors vous allez me dire, mais comment je vais m'habiller comme lui? Comment est-ce que je peux faire pour m'habiller comme lui? Vous vous habillez dans ce monde d'une manière qui est conservatrice. Amen. Vous vous habillez pour plaire à un chrétien, une chrétienne, pour pas qu'on vous confonde avec un mondain. Amen. Quand on regarde sur une de nos sœurs, on doit dire, tiens, elle est différente celle-là. On ne doit pas dire, ah, elle est comme nous. Quand on regarde sur un homme, on ne doit pas regarder sur lui comme étant un homme, comme un homme du monde. Il se coiffe comme un chrétien, il se conduit comme un chrétien, il parle comme un chrétien et il agit comme un chrétien. Amen. Voilà ce que vous devez être, messieurs, des vrais chrétiens. Amen. C'est le moment de recommencer aujourd'hui. Amen. On doit se comporter comme des chrétiens, vivre comme des chrétiens, agir comme des chrétiens, prier là où il faut prier. Amen. Vous savez quoi, si les gens d'autres religions n'ont pas peur de prier dans la rue, peu importe où ils sont, est-ce que vous avez peur de prier au restaurant quand vous mangez jeune, quand vous sortez ensemble à la pataterie, vous priez? Merci Franck. Franck, il fait un grand signe, mais quand tu n'es pas là, toi, il prie? À la pataterie ou autre part, hein? Priez là où vous êtes. N'ayez pas peur. Arrêtez toutes les choses. Parlez tout haut. Déclarez qui vous êtes. C'est le pays du recommencement. Seigneur, je vais déclarer qui je suis. Je suis pas quelqu'un de... On n'est pas là pour faire de l'ostentation, mais on veut être nous. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens évangéliques. Amen. Nous sommes des pentecôtistes dans notre foi, parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous croyons en un seul Dieu, et son nom c'est Jésus, et nous déclarons son retour. Il revient bientôt. Et il m'a sauvé. Hallelujah. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Vous savez qu'à certains moments, vous et moi, nous avons été irréalistes. Nous avons eu des idées plus ou moins romantiques sur une certaine porte dorée qui va nous ouvrir l'occasion et on va voir des choses absolument extraordinaires. On est un petit peu comme les gens qui cherchent la poule aux œufs d'or, vous savez. Vous savez quoi? Il faut réaliser qu'on est sur la terre, on va avoir faire face aux choses de la terre, on est toujours sur la terre, on n'est pas sur un nuage là-bas quelque part. On est des chrétiens ici, on travaille, on se lève le matin, on prend le bus ou on prend le train, on va au bureau ou on va au boulot. On est ici sur la terre, on n'est pas exclu là-bas sur une île quelque part. On vit au quotidien, On a des bobos au quotidien, on a les soucis du quotidien, on paye les factures du quotidien, mais notre préparation est pour le ciel. On se prépare pour le ciel. Jésus revient. Mais alors que nous faisons ces choses, aujourd'hui, les moments deviennent de plus en plus périlleux. Nous faisons face au péril quand nous recherchons ces choses idéales dans notre vie. On fait face au péril de diviser le temps en deux périodes. Et ça, c'est très humain. Vous faites ça, je fais ça. C'est un petit peu nous. Et on doit se réveiller de cette façon de faire. Laissez-moi vous dire. On a du mal avec le passé et l'avenir et l'aujourd'hui. On a du mal avec ça. Le passé, sachez une chose, c'est qu'il est entré dans le tombeau du passé. Et l'avenir, lui, il est encore dans les entrailles du temps. L'avenir, il n'est pas là encore. La seule partie du temps que vous et moi, on connaît, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Mais vous avez remarqué qu'on vit toujours hier ou demain. Hier, c'était comme ça. Hier, c'était mieux. Ah, hier, c'était ceci. Hier, c'était cela. Ah, j'espère que demain, ce sera mieux. Et maintenant ? Pourquoi pas saisir maintenant et faire de maintenant le meilleur de tout ? Parce que hier, on ne peut plus le contrôler. Demain, on n'est pas sûr qu'il va arriver. Donc maintenant est ici. Il faut faire quelque chose maintenant. Jésus a dit ceci. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour, c'est-à-dire maintenant, pas demain, pas après-demain ou pas hier. C'est maintenant, je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Dans 2 Corinthiens 6, 2, voici maintenant est le temps favorable, voici maintenant est le jour du salut. Donc, vous et moi, frères et sœurs, il faut que l'on apprenne plus que jamais à vivre au quotidien et dire, Seigneur, maintenant est mon occasion. Aujourd'hui, c'est mon occasion. Seigneur, je ne veux pas manquer l'occasion de peut-être sourire à quelqu'un, serrer la main à quelqu'un, parler de Jésus à quelqu'un. Et Seigneur, surtout de te parler à toi, de me réjouir dans ta présence. Maintenant, pas jeudi soir à la prière, pas mardi à l'étude biblique, mais maintenant, aujourd'hui, en ce jour, parce que je suis ici, je ne sais pas ce qui va m'arriver mardi. Je ne sais pas si je vais venir ici jeudi. Mais je suis dans ta maison maintenant. Seigneur, que ce soit le meilleur moment de ma vie maintenant. Pour souligner l'importance du maintenant et du bon choix, Shakespeare a fait dire à Brutus ceci dans la pièce Jules César. Il y a une marée dans les affaires des hommes, prise sur son flux, elle porte au succès. Mais si l'on manque sa chance, le grand voyage de la vie s'échoue misérablement sur le sable. Or, aujourd'hui, nous sommes à marée haute. Prenons le flot tant qu'il est favorable, où tout ce que l'on a risqué sera perdu. Et frères et sœurs, nous sommes certainement une génération ou deux ou trois générations qui sont rassemblées ici, où est-ce que nous sommes en haut de la vague. On veut prendre aujourd'hui cette opportunité pour dire, Seigneur, nous allons plus que jamais être des témoins pour toi, être de vrais chrétiens, non seulement au dehors, mais au-dedans, dans ma vie, dans ma consécration, dans ma marche avec toi. Je vais être un vrai chrétien dans les choses que personne ne voit. Je vais être un vrai chrétien en secret aussi, pas simplement dans ce qui se voit, mais au-dedans de moi, dans mes pensées, dans mon cœur. Seigneur, je vais lutter contre la convoitise et mettre de côté les mauvaises pensées en me nourrissant du pain de vie. Sornovaki nous a parlé de quel pain de vie ? La parole de Dieu. Seigneur, qu'elle soit mon amie de plus en plus. Il est absolument important de reconnaître l'importance du présent en contraste du passé et du futur. Voici un autre extrait d'un autre poème. Je passerai par ici une seule fois et puis plus jamais. Une seule fois, et puis la porte silencieuse qui sur ses gonds s'ouvre et se ferme. Plus jamais, je n'y passerai plus de cette façon. Ainsi, alors que je peux, avec toutes mes forces, j'essaierai de réconforter, de soulager, de guider tous ceux que je rencontre sur ce chemin de pèlerinage. Car aucun homme ne passe une deuxième fois sur ce grand chemin qui monte de l'obscurité à la lumière, au travers de la nuit vers aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que l'on vit, demain est passé, 2011 est passé, on ne passera plus jamais par là. Mais aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que l'on a décidé de faire? Qu'est-ce que l'on va faire pour Christ aujourd'hui? Quelle est notre décision? Il serait insensé pour nous de nous lamenter sur les occasions manquées. Combien d'entre vous, vous avez manqué une occasion l'année dernière? Moi, le premier. Vous avez manqué aucune occasion ici? Est-ce que je peux voir votre main? Vous avez manqué une occasion quelque part? Il y a quelqu'un qui vous a dit, fais ceci, fais cela, achète ceci, achète cela, achète cette voiture-là, investis là-bas, prends ce boulot-là. On a raté une occasion. On ne pourra plus jamais la retrouver. Vous savez quoi? Chacun d'entre nous, on a fait une faute. On a manqué une occasion quelque part. Mais est-ce qu'on va se lamenter? Oh, si j'avais su, j'aurais dû. Ah, oh, j'aurais dû. Mais j'aurais dû, mais ça ne vous donne pas ce que vous auriez dû faire. On ne peut pas être en train de se lamenter sur ce qui est perdu à tout jamais. Deuxièmement, il est aussi insensé d'attendre le futur. Parce que le futur, c'est un rêve. Et je pense qu'il faut qu'on ait un rêve, mais on ne peut pas attendre le rêve. Parce que le rêve, c'est souvent un mirage. C'est quelque chose qu'on imagine. C'est ce qui nous motive d'aller de l'avant. Et il faut avoir un certain rêve en soi pour être motivé. Mais on ne peut pas attendre sur le futur en disant « Oh, bon, bah, je fais rien, ça va venir tout seul. » Vous savez quoi? Il n'y a rien qui vient tout seul. Il faut travailler dur. Si vous voulez avoir un diplôme à l'école jeune, il faut travailler dur. Maintenant, on est dans la deuxième partie. Les examens, ça arrive bientôt. Le mois de juin, c'est bientôt là pour ceux qui vont faire le bac. Il faut travailler maintenant, pas au mois de mai. Hein. Et puis venir demander la prière, prier pour moi pour que j'y arrive. Si vous ne travaillez pas, vous n'arriverez pas. Je veux que tous les bacheliers, tous ceux qui vont avoir le brevet, tous ceux qui vont avoir leur licence soient ici et qu'on prie pour vous dimanche prochain. Tous ceux qui se préparent pour un examen. Mais vous, de votre côté, il va falloir que vous travailliez. Amen. Il ne faut pas dire « Ah, oh, priez pour moi, Seigneur aide-moi, Seigneur aide-moi. » Seigneur ne vous aidera jamais si vous n'avez rien mis dans la tête. Si vous n'avez pas mis des devoirs, si vous n'avez pas travaillé, vous ne l'aurez pas. Maintenant, si vous avez travaillé dur, on peut imposer nos mains sur votre tête. Seigneur, ramène-lui à la mémoire ce qu'il a étudié. Amen. Ramène-lui à elle aussi, Seigneur, ce qu'elle a étudié. On veut faire ça. C'est pareil pour tous ceux qui sont ici. Si vous voulez réussir dans la vie, il faut travailler. Ça ne marche pas tout seul. Il n'y a rien qui vient tout seul. J'ai jamais vu une maison qui arrivait d'un seul coup toute seule. Vous avez vu le nombre d'heures que les maçons passent pour construire la maison? Le nombre d'heures qu'on passe à l'intérieur pour la finir? Ah, ça ne s'est jamais fait tout seul. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Et la vie est telle où est-ce que l'on construit quelque chose? Et ça demande à une personne d'être vraiment dévouée à la cause de ce qu'elle est en train de faire. Pour Christ et la marche avec Christ, c'est pareil. Amen. Comme on travaille sur les choses de la terre, on doit travailler sur notre salut quotidiennement, jour après jour, constamment. Donc il serait insensé pour nous de rien faire en attendant le futur, en disant « Ah, Jésus revient, je ne fais plus rien maintenant. » Ah bon? Si tu vas manger alors? Si tu ne fais plus rien, tu vas manger quoi? Ah, mais quelqu'un me donnera bien quelque chose. Je vais aller trouver une caisse quelque part. Il y a bien quelqu'un, une caisse qui va donner quelque chose. Vous savez quoi? Si vous allez dépendre des caisses, dans quelques années, vous allez payer 4 euros le litre d'essence. Parce que les caisses doivent prendre l'argent quelque part. Vous savez où est-ce qu'ils prennent l'argent? Dans vos poches. Quand vous achetez l'essence. Pour donner à quelqu'un qui ne veut pas travailler. Maintenant, ceux qui ne peuvent vraiment pas travailler, merci Seigneur pour la caisse. Mais celui qui est feignant, la Bible elle dit qu'il ne mange pas. La Bible est très claire dessus. C'est quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Pas beaucoup d'amen, mais c'est amen quand même. C'est ce que la Bible dit. C'est pas moi qui l'invente. Vous dire, oh, le pasteur, il est dur. Non, non, le Seigneur dit ça. Tu travailles pas, tu manges pas. À l'époque de la parole de Dieu, il n'y avait pas de caisse. Vous ne pouvez pas aller aux ascédiques et demander de l'aide là-bas, l'aide là-bas. Non, ça ne marchait pas comme ça. C'est pour ça que les gens avaient des grandes familles et ils s'aidaient les uns et les autres. Mais aujourd'hui, pas de boulot, pas de problème. Hein. Aide-nous, Seigneur. Vous savez quoi, l'Église doit être un modèle. Amen. Les chrétiens doivent être des gens qui travaillent dur. Amen. Ils doivent être ceux qui réussissent le mieux dans la vie. Vous savez ce que la parole de Dieu dit aux Juifs? Vous êtes la tête et pas la queue. Et vous savez quoi? J'étais dans l'avion et j'ai vu de mes yeux, encore une fois, que eux sont la tête et pas la queue. Moi, j'étais en deuxième classe, eux étaient en première classe. Amen. Alors, j'étais juste à la limite de la première classe. Mais moi, j'étais en deuxième classe. Et eux, ils étaient en première classe. Ah, j'ai dit, Seigneur, Mais moi aussi, je suis un vrai juif. Seigneur, je suis un vrai de vrai, moi. Mais eux, ils étaient en première, avec leur torse sur la tête. Ah, je dis, c'est pas possible. Ils sont la tête, ils sont pas la queue. La bénédiction les suit, ces gens-là. Vous savez quoi? Elle nous suit aussi. Parce que nous aussi, on est la tête et on n'est pas la queue. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. J'ai réussi à vous faire sourire quand même. Amen. Merci, Seigneur. Vous savez quoi? On est dans un pays de recommencement, frères et sœurs. Amen. Je crois qu'un chrétien doit sourire, rire, se réjouir plus que jamais. S'il y a quelqu'un qui a le droit d'être heureux, c'est vous. S'il y a quelqu'un qui doit bénir le Seigneur, c'est nous. Amen. On a le droit de se réjouir. Amen. Parce qu'on sait où on va. On sait ce qui nous est réservé dans notre futur. Oh, merci, Seigneur. Hallelujah. C'est pourquoi nous dit Hébreux 3:7, selon que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Le verset 15, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. 13:8, Jésus-Christ est le même aujourd'hui qu'il était hier et qu'il sera demain. Il ne change pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est le grand je suis. Amen. Le Seigneur Jésus, vous regardez un petit peu dans Jean. À chaque fois qu'il déclare ce qu'il est, il dit, je suis la porte, je suis le pain de vie, je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis la lumière du monde. Vous savez, c'est lui qui est ça. Et c'est lui que nous servons de tout notre cœur. Nous avons certainement, vous et moi, à faire face à une adversité qui est devant nous. Je crois que la vie que j'aimerais souhaiter à tous les frères et sœurs qui sont ici, à chacun d'entre nous, c'est que nous ayons le meilleur confort possible. Mais j'ai peur que quelquefois que le confort du monde matériel dans lequel nous sommes nous a un petit peu éloignés de Dieu. Parce que tout est devenu si facile que on pense que Dieu est quelqu'un qui est comme un micro-ondes. Vous savez, on met ça dedans, au bout de 30 secondes, c'est réchauffé. Et je pense que l'une des choses à réaliser, c'est que Dieu n'est pas un micro-ondes. Il ne fait pas des choses simplement à notre guise, comme on veut. On ne commande pas simplement en disant « Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus !» C'est quoi? En faisant des choses comme ça, on prend le nom du Seigneur en vain. Je pense qu'un chrétien doit être posé. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des situations qui sont des situations d'urgence, ou est-ce qu'il n'y a pas le temps de se préparer. Mais nous, en tant que chrétiens, on doit se préparer justement que quand il y a des situations d'urgence et que l'on prie au nom du Seigneur Jésus, que le Seigneur intervienne, parce qu'il nous connaît. Mais s'il ne nous connaît pas, il n'interviendra pas. Mais le monde moderne a fait d'une telle sorte qu'on voudrait que Dieu fasse avec nous des choses instantanées. On vit dans un monde où est-ce que c'est... Frère Brochu me disait, Frère Novaki, tu sais quoi, je ne sais pas si tu as découvert, mais moi, je viens de découvrir Skype. Et je dis, ah bon? Tu découvres Skype seulement maintenant? Alors, moi, je dis, ben oui, il dit, tu ne te rends pas compte? Il dit, j'ai vu ma petite fille qui ouvrait ses cadeaux à Noël et j'étais déjà en train de regarder. Ben, je dis, c'est formidable, mais tu aurais dû avoir Skype depuis longtemps. Ça marche depuis longtemps, ça. On est dans un monde extraordinaire, frères et sœurs. On peut voir de l'autre côté du monde, instantanément. Pour ceux qui sont avec Apple, vous avez FaceTime qui est là. Pour ceux qui n'ont pas d'Apple, vous avez Skype qui est là. Vous avez quelqu'un qui est de l'autre côté du monde. Vous pouvez l'appeler, vous pouvez parler, le voir. Gratuitement. C'est extraordinaire. Et vous savez ce qui se passe pour nous? Étant donné qu'on est une telle technologie, où est-ce qu'on envoie un message, un texto, tout le monde le reçoit instantanément. Hier, j'avais ma fille qui était occupée à quelque chose, donc je n'arrivais pas à la joindre, je lui ai envoyé un texto. J'ai dit, dis-moi un petit peu, tu es occupée ou quoi là? J'ai envoyé un texto, 5 minutes après, elle m'appelle. Même pas 5 minutes, 2 secondes après, elle m'appelle. Pourquoi? Parce que c'est instantané. Il faut 8 heures pour aller à Toronto, en avion, mais il faut 1 seconde pour un texto d'arriver là-bas. Et il faut rien du tout pour se voir après se parler. Et on a tellement l'habitude de cela que quelque part, on a perdu notre équilibre vis-à-vis de Dieu. On pense qu'avec Dieu, ça marche pareil. Mais Dieu n'est pas un Dieu de technologie. Dieu est un Dieu de réalité. Il est dans le présent. Et nous, on ne marche pas avec lui que quand on a besoin de lui. Nous, on le sert de tout notre cœur 24 heures sur 24. Pas simplement à l'occasion. Pas simplement quand ça nous chante. Pas simplement quand quelqu'un est malade. Pas simplement quand on est près de la mort. On dit vite, 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 qu'est-ce que je vais faire maintenant là? Nous, on doit servir le Seigneur au constant. Là, le Seigneur répond à nos prières. Mais si c'est occasionnellement, ne soyez pas surpris. Oui, il y a des gens qui disent « Ah, j'ai prié, il ne m'a pas répondu. » Ah bon, tu as prié, tu n'as pas répondu? Et ça fait combien de temps que tu as prié? Bah, c'est la première fois, là. Ah bah oui, voilà. Daniel a prié, et le Seigneur l'a entendu, et il a mis 23 jours pour lui répondre. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'adversité. Il dit « L'ange de Perse s'est opposé. » Vous savez que quand on est dans le monde spirituel, maintenant, il y a de l'opposition qui est là. Il y a de l'opposition qui est spirituelle qui est là. Et nous sommes, vous et moi, dans un combat. Et il faut réaliser que nous sommes au milieu de l'adversité. Paul avait été confronté par de nombreux adversaires. Il a été contesté, confronté par les dirigeants juifs qui étaient contre lui. Ils étaient contre ce qu'il prêchait. Il prêchait que le salut était en Jésus-Christ et que Jésus-Christ était Dieu manifesté dans la chair et que si vous croyez en Jésus, par la foi, vous êtes sauvés. Les Juifs ne pouvaient pas accepter de telles choses. Donc, il était confronté par le judaïsme de l'époque à un tel point qu'il était persécuté, qu'il était même emprisonné pour la prédication qu'il prêchait. Il était emprisonné par les siens, s'il vous plaît. Il n'était pas emprisonné par une autre religion là-bas, quelque part. Il était emprisonné par ceux desquels il était sorti, puisqu'il était un pharisien de pharisiens. Et eux l'opposaient très fort. Paul a expérimenté l'opposition hostile des païens aussi. Il avait des difficultés quelquefois financières, mais Dieu a toujours pourvu à tous ses besoins. Il était tout le temps avec lui. Notre Seigneur a été lui-même confronté à des adversaires. Dans son propre village, s'il vous plaît, quand il est venu, il leur a parlé, il leur a lu Ésaïe 60, et en lisant cela, il dit « Cette parole est accomplie devant vous aujourd'hui ». Quand il leur a dit ça, ils se sont fâchés. Ils étaient prêts à le jeter par une falaise. C'était le Seigneur lui-même. Et il a dû disparaître et se faufiler dans la foule, parce que sinon il voulait le précipiter par une falaise. Pourquoi ? Parce qu'il leur a dit la vérité. La vérité aujourd'hui, elle ne doit pas être dite. La vérité est quelque chose qui doit être caché. Parce que quoi, la vérité ne peut pas te cacher. Jésus-Christ dit « Je suis la vérité ». C'est lui la vérité. Il est le véritable. Merci Seigneur. Donc vous et moi, frères et sœurs, on aura quelque part certainement de l'opposition. Mais nous sommes dans un pays du recommencement. On veut marcher avec le Seigneur. On veut saisir l'occasion pour servir le Seigneur de tout notre cœur. L'une des choses qu'il faut réaliser, c'est que nous sommes ses enfants. Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de l'homme, mais de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes filiés à Jésus-Christ. Nous sommes ses enfants. Il est notre Père céleste. Quand on dit notre Père qui est aux cieux, on parle à Jésus ici. C'est lui notre Père céleste. Il est le créateur du ciel et de la terre. Voilà pourquoi on dit notre Père céleste. Il est notre sauveur parce qu'il est venu pour mourir sur la croix du calvaire. Il est le Saint-Esprit, le consolateur en nous aujourd'hui, la puissance du Saint-Esprit. Il est ce Dieu que nous prions, que nous cherchons. Il est cette porte de la foi qui nous est ouverte aujourd'hui. Il est la porte des brebis. Dans Actes chapitre 14 et au verset 27, après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert la porte aux nations, la porte de la foi aux nations. Qui étaient les nations ? Les nations, c'était les païens. Le Seigneur avait ouvert la porte de la foi aux païens, c'est-à-dire à vous et à moi. À vous et à moi qui n'étions pas de descendance juive. Mais le Seigneur nous a ouvert la porte de la foi. Merci Seigneur de réaliser qui nous sommes. Il nous donne la possibilité d'être ses enfants, de recevoir la foi. Et une autre chose, une autre porte qui nous ouvre, la porte de la prière. Matthieu 6:6, quand tu pries, entre dans ta chambre. Et là, il nous dit, ferme la porte. C'est le seul endroit dans la parole de Dieu où il nous dit, fais fermer la porte. Prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus nous a ordonné qu'une fois que nous entrons dans cet endroit de prière, nous voulons fermer la porte. C'est-à-dire que nous voulons nous exclure maintenant. C'est très symbolique ici. Mais nous fermer la porte maintenant, c'est fermer la porte au monde. C'est dire non aux choses qui viennent nous déranger. Parce qu'on va passer un moment avec lui. Vous avez remarqué que quand vous passez un moment avec lui, surtout quand vous êtes dans les débuts de la prière, il y a toujours les meilleures idées qui vous viennent. Vous êtes là en train de prier, d'un seul coup vous avez cette brillante idée de quelque chose. Vous savez ce qu'il faut faire ? Vous prenez un bout de papier, vous l'écrivez. Vous l'écrivez tout de suite, parce que sinon ça va vous tulipiner. Donc vous écrivez ce qui vous est venu comme idée, et puis vous continuez dans votre prière. Amen. Maintenant, après, il est possible que vous soyez une inspiration du Seigneur. Vous avez lu un verset biblique, et d'un seul coup, le Seigneur vous a ouvert les yeux sur quelque chose. Ben, vous continuez d'écrire. Vous écrivez l'idée que le Seigneur vous a donnée. Et puis, comme ça, vous savez que c'est marqué sur du papier et vous pouvez vous concentrer à louer le Seigneur. Et quand vous allez sortir de votre moment de prière, vous pouvez prendre votre papier et dire « Ah oui, la brillante idée, c'était ça ». Et puis, vous allez remarquer une chose, c'est qu'une fois que vous avez regardé cette brillante idée, finalement, après, elle n'est pas si brillante que ça. C'était simplement quelque chose pour vous déranger dans l'intimité que vous aviez avec Dieu. C'était quelque chose simplement que Satan voulait venir semer dans votre esprit pour ne pas que Dieu vienne vous parler de la deuxième partie de sa parole qui vous a ouvert les yeux sur. Amen. Seigneur, bénis-nous aujourd'hui là-dessus. Aide-nous aujourd'hui, Seigneur, de pouvoir entrer dans la chambre de la prière. Et une autre chose, une autre porte d'opportunité que nous avons, c'est la porte du témoignage. Seigneur, plus que jamais, dans mon quartier, dans ma ville, dans l'endroit où je vis, donne-moi d'être un témoin. Le témoignage peut être audible, il peut être parlé, bien sûr, et il doit être aussi un témoignage parce que les gens voient que nous sommes des chrétiens. Est-ce que vos voisins, vos amis savent que vous êtes des chrétiens? Que vous le leur ayez dit ou simplement par votre style de vie? Qu'est-ce qu'ils entendent chez vous? Quelle est la musique qui sort de votre maison? De quelle manière vous apparaissez à leurs yeux? Qu'est-ce qu'ils voient en vous? Ça, c'est un témoignage. Et bien sûr, vous aurez l'occasion de leur parler. Bien sûr, pareil avec les amis, pareil au travail. Seigneur, nous avons une porte de témoignage qui nous est ouverte. Voilà pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, frères et sœurs, il nous faut réaliser que nous voulons aller dans ce pays du recommencement. Recommencer à vivre plus près de Christ. Recommencer à nous approcher de lui. Ce qui est passé, est passé. Ce qui n'a pas été fait, n'a pas été fait. Mais Seigneur, je ne veux pas refaire la même erreur cette année. Seigneur, je suis au mois de janvier. Seigneur, je veux bien gérer ma vie, bien gérer mes pensées, bien gérer ce que je fais, bien gérer mes études, bien gérer mon travail. Seigneur, aide-moi à être meilleur que je n'ai jamais été. Et pour cela, Seigneur, tu seras juste au centre de ma vie dans tout ce que je fais. Si vous êtes dans les affaires, priez que le Seigneur vous inspire et vous conduise. Quand vous êtes en train de négocier quelque chose, priez le Seigneur qu'il aille avec vous pour faire une négociation quelconque. Amen. Quand vous êtes dans une situation en train de faire, peu importe les choses que vous faites, soyez toujours sûr que vous avez le Seigneur avec vous. Amen. Priez à ce sujet-là. Et ensuite, faites les choses comme vous êtes conduit. Et le Seigneur va vous bénir. Il va vous aider. Et dites au Seigneur, Seigneur, si je fais une erreur, arrête-moi. Seigneur, si je fais quelque chose qui n'est pas dans ta volonté, arrête-moi, Seigneur. Fais un barrage quelque part. Alors le pire, c'est ceci, c'est quand le Seigneur fait barrage, on se dit, oh, pourquoi ça n'a pas marché? Je me souviens quand on voulait acheter une propriété ici pour l'église, tout était fait, tout était planifié, les plans étaient faits, l'architecte avait fait sa maquette. Et on arrive au dernier conseil municipal à La Rochette, et puis là, d'un seul coup, au dernier, là, ça devait être le point final, ça devait partir. D'un seul coup, il y a un voisin qui dit, vous savez quoi, il y a une ordonnance dans la ville qui dit qu'on ne peut pas avoir au milieu de la communauté quelque chose qui fait plus que 9 mètres. Badaboum, tout le projet s'est écrasé. Et on a prié, on a demandé, on était sûr que le Seigneur voulait ça. Puis d'un seul coup, ça s'est arrêté. Mais on disait, Seigneur, si ce n'est pas ça, arrête-nous. Mais quand il nous a arrêtés, on n'était pas contents. Pourquoi? Parce que nous, on ne voit pas dans le futur. Maintenant, quand on regarde en arrière, on dit « Merci Seigneur que tu nous as arrêtés là-bas. » Alors, on est fort maintenant. Oh, oh, on est des costauds, hein. Mais quand c'est arrivé, on était triste. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas le futur. Et vous savez quoi? Quand vous ne voyez pas le futur, il faut faire confiance à Dieu. Amen. Quand il vous arrête, il dit « Seigneur, je ne suis pas content. » Vous savez quoi? Quand je suis arrivé ici l'autre jour, la maison est vide. Les gens sont partis. Peut-être que tout a été vendu, là. Je suis passé devant, j'ai dit, Seigneur, avec Solomon qui est dans la voiture, j'ai dit, Seigneur, tu connais toutes choses. On a prié pour ce bâtiment, on l'a déclaré, et la maison est vide. Il semblerait qu'il est possible que c'est vendu. Pourtant, nous, on voulait l'acheter. Mais j'ai dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tout est entre tes mains. Donc, béni soit le nom de l'Éternel. Je suis un peu déçu, mais Seigneur, tu connais le futur, pas moi. J'ai déjà été déçu une fois, donc je vais pas être déçu une deuxième fois, hein. Je vais regarder dans 5 ou 6 ans ce que le Seigneur va faire. Amen. Mais le Seigneur est tout puissant. Quand je suis arrivé ce matin, j'ai dit, Seigneur, tu sais quoi? Ça peut être encore à nous, ça, hein? Qui sait ce que le Seigneur peut faire encore? Qui sait ce que le Seigneur peut faire encore? C'est quoi? Le Seigneur peut faire les choses que nous, on ne peut pas faire. Il peut intervenir là où nous, on ne peut pas intervenir. Parce qu'il est Dieu. Et voilà pourquoi le Seigneur m'a donné le psaume 46 à La Rochette. Il dit, attends, Sois tranquille et sache que je suis Dieu. Donc on était tranquille. Le dimanche qui était venu, j'ai dit à l'église, vous savez quoi ? On doit être tranquille, le Seigneur est avec nous, vous allez voir, ça va être réglé dans 15 jours. Tu parles. J'étais sûr que Dieu m'avait parlé. J'ai dit à l'église que Dieu m'a parlé. Et au bout de 6 mois, il n'y avait toujours rien. D'ailleurs, le Seigneur m'a dit, ne cherche plus rien. Regarde pas les journaux, regarde pas ce qui est à vendre, ne cherche pas. Alors j'ai voulu tester si le Seigneur m'avait parlé. J'ai essayé de regarder dans le journal. D'un seul coup, le Seigneur me parlait. J'ai dit, je t'ai dit, ne regarde pas. Ok, Seigneur. Je voulais être sûr que c'était toi, que ce n'est pas moi. Donc pendant 9 mois, on n'a rien cherché. C'est pas 3-4 jours. Et je me suis dit, l'église, elle va se dire, c'est Dieu, le pasteur, il dit que Dieu lui a dit des choses, mais il n'a rien dit. Non, non, le Seigneur m'a parlé. Et d'un seul coup, alors que j'étais en train de rouler dans la rue ici, quelque part, je reçois une vision en roulant dans la petite polo qu'on avait à l'époque. Vous savez quoi ? Vous avez intérêt à avoir le Seigneur avec vous quand vous avez une vision en roulant. C'est le Seigneur qui a intérêt à conduire votre voiture quand vous avez une vision en roulant. Hein ? Et le Seigneur m'a montré une propriété, avenue Patton, celle-ci. Je n'étais jamais passé par ici, j'avais jamais vu ce bâtiment, mais je suis venu juste là, j'arrive là. Et il y avait un signe qui était ici, avenue Patton, à vendre ou à louer. Je fonce directement, avenue Patton, je fonce à la BNP. Je connaissais des gens à la BNP, je dis, vous savez quoi, il y a un bâtiment avenue Patton, vous ne savez pas à qui il appartient ? Ils m'ont dit à qui il appartient. J'étais voir le directeur de la coopérative à Melun. Vous savez quoi ? Dieu m'envoie ici. Elle dit, vous savez quoi ? Je viens de le mettre en vente hier. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. C'est exactement comment Dieu fait les choses. C'est juste à l'heure. C'est juste à l'heure. J'étais voir le notaire. Le notaire savait que je cherchais un terrain. Il me dit, je veux vous voir, pasteur. J'ai dit, non, c'est moi qui veux vous voir. C'est moi qui parle en premier, parce que si c'est lui qui parle à moi, c'est moi qui paye. Mais si c'est moi qui lui parle, je ne paye pas tout de suite. Donc, voilà. Il dit, vous savez quoi ? Il y a une propriété là-bas qui va vous intéresser peut-être. Oui, c'est sûr qu'il m'a intéressé. Le Seigneur m'a conduit ici. Je lui ai expliqué un petit peu ce qui s'est passé. Et vous savez quoi ? 8 jours après, j'ai un coup de téléphone. Vous savez quoi, pasteur ? Vous ne pouvez pas visiter le bâtiment tout de suite. Ah bon, pourquoi ? Parce que Mercedes veut le bâtiment, et ça fait déjà des années qu'ils l'attendent, et ils ont priorité. Mais Dieu m'a parlé. Sache que je suis Dieu et je domine les nations. Je domine sur les hommes. Entre deux, on est parti pour notre voyage missionnaire, je crois. Je ne sais plus exactement ce qui était, on est parti pour quelque chose. Et en rentrant, on est rentré au bout d'un mois, je crois, parce qu'ils ont mis au moins 6 semaines ou 7 semaines pour faire leur offre ici à côté. Et quand je suis rentré, j'ai appelé le notaire. J'ai dit, monsieur le notaire, qu'est-ce qui se passe là ? Il dit, vous savez quoi ? J'ai appelé la coopérative. Mercedes n'est pas sérieux. Ils n'ont pas fait une offre encore. On les appelle. Et ils leur ont fait une offre absolument ridicule. Le prix est ridicule. Donc, la coopère vous donne maintenant l'autorisation de les visiter. Je viens visiter. Je dis, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai dit, nous, on va leur offrir ce qu'ils veulent. 1 million de francs. Ils voulaient 1 million de francs à l'époque. Et vous savez ce qu'on a fait ? On donne 1 million de francs. Ils ont signé juste là. Et vous savez ce qui s'est passé entre deux ? C'est que les gens qui étaient à la tête de Mercedes se sont retrouvés en prison ce jour-là. Parce qu'ils avaient fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Dieu domine sur les nations, il domine sur les hommes. Vous savez quoi ? Ça, c'est le genre de Dieu que l'on sert. Ah mais ça, ce sont les choses que lui fait. Que lui fait que nous, on ne peut pas faire. Donc, dans notre marche avec Dieu, frères et sœurs, quand on ne sait pas ce qui se passe, quand on vient devant un échec, devant une opposition quelconque, on dit, Seigneur, tu connais d'autres choses. Moi, je peux aller jusqu'à là, mais après, je ne peux plus rien faire. Seigneur, c'est à toi d'entrer en jeu ici. C'est à toi de faire des choses que je ne peux pas faire. Voilà pourquoi nous, Église, il y a des choses que l'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses que l'on peut dire et des choses qu'on ne peut pas dire. Mais ce que l'on doit faire, on doit faire. Et Dieu fera ce que l'on ne peut pas faire. Il interviendra où on ne peut pas intervenir. Il agira où on ne peut pas agir. Merci Seigneur. Et vous savez quoi ? Vous venez dans une église ici qui a été construite par la foi. Amen. Merci Seigneur. Depuis 1994, ce lieu a été dédicacé à la gloire du Seigneur. Amen. La mairie est venue l'autre jour ici, ils diront, oh, mais c'est tout neuf ça. Non, non, c'est pas tout neuf, c'est de 94. Vous savez quoi? C'est la maison de Dieu. La maison de Dieu est toujours neuve. Elle est toujours belle. Elle est toujours propre. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de Dieu ici. Seigneur, je veux être dans cette nouvelle année un nouveau chrétien. Amen. Je veux être meilleur que l'année dernière. Je veux mieux travailler que l'année dernière. Je veux mieux prier que l'année dernière. Être plus inclus dans les choses du Seigneur. Et Seigneur, je veux voir encore ce que Sœur Novaki nous a fait dire tout à l'heure. Cet engagement que nous avons lu. Sœur Novaki, tu l'imprimes, tu nous le mets dans le bulletin la semaine prochaine. Ok? Merci. Seigneur, aide-nous aujourd'hui. Jésus est la porte. Et sachez une chose, si vous êtes des amis qui nous visitent, il est la porte du pardon. Il veut vous pardonner aujourd'hui. Il est la porte d'une nouvelle vie. Êtes-vous né de nouveau? Amen. Il est la porte d'une nouvelle vie. Il est la porte de la vie éternelle. Est-ce que vous avez la vie éternelle en vous? Amen. C'est aujourd'hui le moment de recommencer. Donc en ce premier dimanche de la nouvelle année, que chacun d'entre nous détermine qu'il va être attentif à saisir toute occasion possible qui lui est ouverte pour adorer le Seigneur, le servir dans le culte, le servir dans les activités d'église, quelles qu'elles soient, et dire, Seigneur, en faisant ceci, Seigneur, j'ai finalement découvert le pays du recommencement. Il est en toi, Seigneur. Parce que en Jésus-Christ, toutes choses sont nouvelles. Amen. En Jésus-Christ, tout est nouveau. Il renouvelle votre vie, il renouvelle votre foi, il renouvelle votre force, il renouvelle votre joie, il renouvelle votre espoir en Christ. En Christ, nous avons une victoire, frères et sœurs. Voilà pourquoi j'aimerais vous demander de vous lever, vous et moi, et j'aimerais que l'on prie les uns avec les autres aujourd'hui. Amen. On veut prier les uns pour les autres. Amen. Vous et moi, on est tous dans la même situation. Certains d'entre vous, vous êtes dans des situations qui sont difficiles, peut-être quelqu'un qui est malade, une difficulté ici ou là, mais sachez une chose, c'est que Dieu est au contrôle. Et si vous êtes dans une difficulté, dis Seigneur, tu sais toutes choses. Seigneur, je me remets entre tes mains. Seigneur, je ne sais pas le futur, je ne vois pas devant moi. Seigneur, pour moi c'est du brouillard, mais toi tu sais, Seigneur. Mais c'est l'une des choses que je sais, c'est que Seigneur, tu n'es pas dans le brouillard. Tu es ma lumière, Seigneur, tu as éclairé mes yeux, tu as éclairé mon cœur. Et Seigneur, tu me donnes la foi aujourd'hui pour marcher avec toi. Oh Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Père céleste, je veux te bénir aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus pour des exemples comme l'apôtre Paul, qui écrit des choses, Seigneur Jésus, un grand homme de Dieu qui se trouvait dans des choses qui...